Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Bonjour Pierre-Yves.
Salut.
Ça va bien?
Pas pire, vous autres?
Oui, tu veux me parler du salaire minimum qui augmente ailleurs au Canada.
Oui, quatre provinces qui, le 1er octobre, vont augmenter. Et je vais te souligner ça parce que le Manitoba, c'est quand même spécial. Alors, roulement de tambour. Oh. C'est quoi l'augmentation du salaire minimum au Manitoba? On va augmenter de 5 cents.
5 sous? Eh
ben, 11,90 à 11,95.
C'est
ce qui est presque ridicule, tu sais, ouais. Parce que c'est comme dire, on met tout ça en place pour 5 sous. Même la personne honnête va dire, pour vrai. Il y a 10 cents en Ontario, on va tomber à 14,35 en Ontario quand même, on se rapproche du 15. En Saskatchewan, 11,81. Ça, c'est drôle, hein? En Saskatchewan, on passe de 11,45 à 11,81. Moi, je me demande qui est arrivé qui a dit, hey, ça va être à 81. Tu sais, on a enlevé les cents, mais on va en mettre dans le salaire. Non, mais c'est drôle. Pareil, on arrondit partout, mais en tout cas, Terre-Neuve, on va augmenter de 12,50 à 12,75. Pendant que nous, au Québec, on a augmenté récemment, on est rendu à 13,50. Et là, Sylvain, ce qui est drôle dans un contexte comme présentement, où il y a une pénurie de main-d'œuvre, où les gens au Canada sont en recherche d'employés, tu sais. C'est que dans le fond, pour les employés au Québec faiblement qualifiés, le salaire minimum pour l'instant, c'est pas un enjeu parce que tu vas l'avoir le salaire minimum de facto, t'as pas besoin de te battre pour l'avoir, tu vas avoir plus parce qu'il y a de la demande, comprends-tu?
C'est ce que j'allais dire, qui, puis je, avec beaucoup de respect en passant, là, mais qui est au salaire minimum parce que même si c'est écrit 13,50, tu le dis, dans plein de domaines, ils n'ont pas le choix d'aller à 15
sont quand même.
Plus, mais il y en a pareil, mais il reste quoi à peu près comme domaine? Les domaines où il y a le plus là, de 13,50,
c'est quoi? En fait, souvent, c'est souvent les emplois de début, le service, c'est de faible, disons, de faible connaissance, mais c'est des gens qui ont soit pas l'intention de changer d'employeur, pas le goût, parce que s'ils ont déjà d'expérience de travail, puis qu'ils ont le goût de changer, c'est sûr qu'ils peuvent aller chercher 13,75, 14, 14,50 ou 15, tu comprends, présentement. Mais des fois, ça vaut pas la peine, parce que des facteurs, Sylvain, qui sont qualitatifs hein, dans la vie, qu'on me dit des fois.
Ben oui.
On me dit, Thierry, il y a pas juste l'argent, hein, il y a aussi le bonheur au travail, puis tous les gens qui sont autour de toi, puis tout ça. Mais moi, au FM 93, j'ai la chance de travailler avec des gens super. Puis quand, en plus, on me paye, fait que là, je suis content, tu comprends?
T'es comblé.
C'est mon tatou du jour. Mais, tu sais, ce qui est intéressant, c'est de voir les tu sais, on dit au Québec, il faut se comparer à l'Ontario puis au Nouveau-Brunswick parce que c'est des provinces limitrophes. Mais quand t'arrives au Manitoba puis en Saskatchewan, là, tu sais, Saskatchewan puis Manitoba, c'est bas, là. Tu sais, on est en bas de 12$ de l'heure.
C'est ça. Moi, j'ai tenu compte des deux, là. D'abord, l'Ontario est plus riche que le Québec, c'est un fait. L'Ontario aussi.
Ouais, mais c'est l'Ontario, c'est comme le Québec, hein. L'Ontario, c'est parce qu'ils ont quand même des villes qui coûtent extrêmement cher. Mais ils ont quand même de la pauvreté en Ontario.
Oh, oui,
ça ressemble au Québec, là. Des provinces qu'il y a.
Globalement, le coût de la vie à Toronto, là, qui est quand même une ville majeure.
Plus élevé qu'à Montréal.
Bon, fait que le salaire minimum soit plus élevé, je trouve ça logique. Mais si on se compare avec l'Alberta et Manitoba, ben vous êtes mieux ici.
Mais en fait, avec Manitoba et la Saskatchewan.
Saskatchewan, excuse-moi.
En plus, le salaire minimum, c'est théorique. Parce que il y a aussi une question des redistributions. Et là, quand j'ai affiché ce tableau-là aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais la mère monoparentale, c'est ça minimum, elle ne peut pas arriver. » Je dis « Bon, encore une fois. » Donc, j'ai fait un calcul pour le fun. Je me suis dit « Je vais aller dans le fichier du gouvernement du Québec. » Puis je vais dire « OK, un célibataire qui gagne le salaire minimum, qui travaillera au maximum, là, 40 heures semaine, 50 semaines par année, qui aura juste 2 semaines de vacances. » Ça, c'est quelqu'un qui travaille au salaire minimum, qui va chercher le plus gros salaire. Puis là, je donne même pas son revenu de vacances. Je mets juste 27 000 parce que il va avoir des fériés qui travaillera pas, peu importe. À 27 000, ton revenu disponible quand tu es tout seul célibataire, là, il est de 23 551. C'est pas parce que tu payes de l'impôt, mais c'est parce que tu payes aussi de l'impôt, mais très peu, mais tu vas payer des charges sociales comme le RRQ et autres.
Ouais.
Et donc, tu as ça dans tes poches. Mais quand tu es une mère monoparentale ou un père monoparental qui a 2 enfants de 2 et 4 ans avec des services de garde subventionnés, là, tu vas pas au privé, puis tu gagnes 27 000. Mais imagine-toi donc que l'argent net que tu as dans tes poches après avoir payé tout, c'est 46 725. Donc, tu gagnes 27, mais tu as 46 700 disponibles. Et donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'arrêtez de penser que les parents dans le besoin sont laissés vraiment pour compte. C'est sûr que ça coûte cher les enfants. Puis il y a un coût, faut que tu te loges, puis tout ça. Je comprends. Mais il y a des gros chèques parce que là, tu as l'allocation famille qui approche 6 000. Tu vas avoir la prime au travail, un autre 1100. Le crédit d'impôt pour solidarité, un autre 1300. Pas tout à fait, mais presque. Tu vas avoir une allocation logement. Tu vas avoir 16 000 piastres non imposables d'allocation canadienne pour enfants dans le scénario dont je te parle. et le crédit pour la TPS. Donc, quelqu'un qui me dit, je suis au salaire minimum, j'ai deux enfants à temps plein d'âge préscolaire, puis je ne vaut pas la peine pour moi d'aller travailler parce que avec la garderie tout ça, j'arrive pas. Ben non, c'est... Mais je te dis pas que c'est une belle vie, je te dis pas que c'est facile, je te dis.
Non.
Ne pensez pas que cette personne-là vit avec 27 000 par année, ce n'est pas vrai.
Il faut tenir compte des allocations puis du filet social qu'on a mis en place, pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais je comprends ce que tu veux dire. Il faut
relativiser.
Tenir compte quand on évalue la position de ces gens-là.
Exact. Puis j'allais faire un troisième calcul, Sylvain.
Ouais.
Je me suis dit, 46 725 de revenus disponibles, quand t'es célibataire, combien faut que tu gagnes pas d'enfants pour avoir ça net dans tes poches?
60,
après,
60.
Charges sociales, assurance emploi, puis tout ça.
60,
61 000.
J'étais pas loin, 61 000.
Fait que dans le fond, ça te prend 61 000, célibataire, pas d'enfant, pour avoir l'équivalent du revenu disponible d'une mère monoparentale sur le salaire minimum. C'est fou pareil, hein?
Ouais, mais il reste qu'on est en campagne électorale, là. Ils vont toujours, s'ils annoncent des programmes d'aide ou etc., ça va toujours être plus payant de dire on va aider les familles dans le besoin et les mères monoparentales que les célibataires. Fait que c'est sûr que les
célibataires, c'est sûr qu'il peut s'arranger, il peut être coloc. Il peut, tu sais, les célibataires peuvent s'arranger dans la vie, mais si t'es célibataire, t'es tout seul dans la vie, t'es au salaire minimum, c'est toi qui a vraiment pas de ressources monétaires parce que oui, il faut que tu nourrisses des enfants, mais le chèque t'aide quand même à payer un logement ou t'as une économie d'échelle. Parce que si t'as deux enfants, tu vas quand même avoir une salle de bain puis une cuisine. Il faut que tu payes une chambre de plus.
Oui.
Et c'est là où est-ce que ça coûte cher. Mais tu as l'économie d'échelle de base d'avoir un revenu et demi au net, tu comprends?
Il y a des défis pour toutes les catégories. Est-ce qu'on devrait le monter? Parce que c'est un gros débat. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Chaque fois qu'on parle de hausse, là, c'est ailleurs au Canada, le fameux 15$ de l'heure que certains réclament absolument. Est-ce que tu penses qu'on devrait le monter?
Ben, le chiffre absolu, comme je viens de le démontrer, ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est de le monter au coût de la vie. Chaque fois qu'il y a de l'inflation, il faudrait que le salaire minimum suive, sinon ça n'a pas de sens.
Mais l'inflation n'a pas monté depuis 5 ans.
Oui, mais faire attention, les salaires minimums, on le fait par coût. Puis là, tu vois, depuis une couple d'années, on l'augmente vite, mais tu sais, l'autre affaire, ça, le pourcentage est toujours trompeur. Parce que si je t'augmente de 2% sur un salaire de 27 000, c'est pas la même chose que si je t'augmente de 2% sur 100 000, tu comprends? Donc, celui à 100 000, 2% d'augmentation, lui, il rendait à combien? 104 000. Celui qui gagne 27 000 à 2%, il n'y a pas le même argent net de plus dans ses poches, mais le prix d'équilibre se déplace parce que celui qui gagne 100 000 a plus de poids dans le prix d'équilibre. Et donc, faut comprendre que c'est pour ça que des fois, il y a des compensations de salaire minimum qui sont plus élevées que l'inflation. C'est parce que ton pourcentage est basé sur un plus petit montant. Si tu veux les aider, il faut que tu leur en donnes un peu plus. Mais si tu leur en donnes plus, faut que tu montes aussi tes niveaux de calcul que tu prends pour faire tes allocations, parce que sinon, tu viens y en donner plus d'un bord, mais tu y enlèves en allocation, tu l'enrichis pas nécessairement. Donc, c'est pas, c'est pas noir ou blanc, tout ça. C'est pour ça que c'est un jeu d'équilibre. Il n'y a pas de bonne réponse parfaite. Mais, à un moment donné, on devient embourgeoisé, on oublie ce que c'était, on l'a vécu, on l'a oublié. Puis, la seule affaire qui est fatigante quand tu as un faible revenu, puis pas la seule, mais il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit de l'échapper. T'as pas le droit de dire, hey, je me pète la face, tu sais, je dépense trop là-dessus, tu sais. Mettons, quand t'as 40, 50 ans pis t'as un bon revenu, tu dépenses 500$ de trop, tu vas te serrer la ceinture les semaines suivantes pis ça, tu vas arriver.
T'as une marge de manœuvre, t'as un coussin, t'as une espèce de petit espace, je comprends.
Ce que t'as pas, ça a l'air le plus faible, tu sais.
Ouais, c'est ça qui doit être un peu stressant. Bombardier, il fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux. Quoi de neuf chez Bombardier?
J'ai rencontré des gens de Bombardier, donc, on a eu des belles questions pis il y en a une qui est intéressante, tu sais, c'est, le cash. Tu sais, le nouveau président a une approche, disons, différente du précédent. Ce que je peux te dire, là, ma perception, là.
Okay.
Disons, le précédent avait son message, avait sa vision, avait son agenda, puis son, tu sais, de la façon d'opérer que les médias étaient, disons, opaques. Le nouveau, je te dirais qu'il est plus transparent un peu. Conscient que Bombardier, dans le fond, là, si on regarde la situation, le C-Series, c'est comme un divorce. Hein? Tu sais, quand tu divorces avec ta blonde, ton chum, tu te tiens un coup, tu dis, je fais un write-off, je fais une perte, OK, bye. Puis là, tu repars à neuf. Donc, maintenant, on a des avions d'affaires, ceux des jets pour le privé, pour les riches, pour les entreprises, tu sais, qui vont contenir entre 9 et 19 personnes. Tu as donné une idée. Les Challenger puis les Global, là, c'est entre 9 et 19 personnes. Et donc, tu es dans des avions qui vont générer en revenus entre 28 millions et 75 millions par avion.
OK.
Puis c'est des avions sur commande spéciale, puis bon. Et donc, on est rendu avec ça. C'est ça, Bombardier, maintenant, plus du service. Parce que dans le fond, plus les avions se complexifient, plus, dans le fond, tu vas avoir de revenus liés au service parce que tu vas entretenir ces avions-là pour les autres. Ouais. Tu vas leur offrir du service. Comme le concessionnaire qui t'offre du service avec ta voiture, ben Bombardier offre du service avec ses avions puis fait de l'argent là-dessus. Et donc, c'est ça maintenant. Le problème avec Bombardier maintenant, c'est que tu as ça, tu es solide, tu commences à faire du profit, tu génères des liquidités auto-générées par les opérations, donc ça va bien. Mais là, ce qui fait mal, c'est la dette. Puis ça va être le sujet chez Bombardier pendant les 5-10 prochaines années, c'est sûr. Au-delà du modèle factuel des emplois, des retombées, il manque de milliards dans le futur. Il faut les générer avec des profits, puis il faut les générer avec du refinancement de dette, peut-être de l'émission de capital, peut-être de l'intervention gouvernementale, on ne sait pas, mais chose certaine, si on oublie la C-Series, puis on écrase ça, là, on l'oublie, c'est fini, on l'a perdu, là, puis qu'on leur remet pas ça sur le nez. Si on regarde leur portefeuille qu'ils ont dans les mains présentement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont? La dette est pesante. Vous donnez une idée, là? La dette représente, ou le passif, là, si tu veux, là, 16,8 milliards, puis l'actif est 13,9 milliards. Donc, tu as 3 milliards de plus, à peu près, de dette que d'actifs. Donc, tu peux pas être endetté davantage que tu es endetté là, parce que dans le fond, tu es déjà pleinement endetté sur ton actif au niveau comptable. C'est sûr qu'il y a une question de JV, mais quand même. Ce que je tiens à dire ici, c'est, dans le fond, il va falloir gérer ça serrant, maudit, générer de la croissance pour être capable d'aller éponger cette dette-là, puis d'ici 2024, de ramasser le cash nécessaire pour payer la dette. Tu comprends?
Et juste en terminant, notre investissement dans Bombardier, c'est rendu à combien? Ça vaut combien, là, ce qu'on a mis, là, avec Couillard, puis tout, là? Je veux juste savoir. Excuse-moi, non, mais c'est important.
Excuse-moi.
Quel investissement? Dans la gorge.
Non, mais t'as fait une erreur.
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit un mot, t'as dit investissement.
Ben oui, on a mis de l'argent.
Maman. C'est pas un chat dans la gorge, c'est une traduction que j'ai dans la gorge. Pas l'investissement, la dépense qu'on a faite dans Bombardier, mais maintenant, ben, il reste les emplois, c'est loin. Il reste.
Ça vaut plus rien.
Airbus. Ça ah, ben là, évidemment, là, ils vont parler de retombées économiques, mais ça vaut plus grand-chose. Parce que dans le fond, on a donné. Si tu donnes le placement, puis tu dis maintenir les emplois, on vous donne le placement, ce que ça va donner en valeur, c'est plus le milliard quelque, c'est plus du genre, il y a des avions commerciaux au Québec qui sont faits par des gens qui travaillent ici, puis c'est tout ce qui reste, là.
OK, OK.
C'est marqué Airbus dessus. Bah. C'est Airbus qui va ramasser. Mais le bon côté, c'est qu'on s'en va vers de l'environnement un peu plus. Hein. On veut améliorer l'aérodynamisme des avions. Pourquoi? Pour être capable de consommer moins d'essence. Et c'est comme ça que l'aviation va réduire son empreinte écologique.
C'est merci, Pierre-Yves. Merci. Salut. 16h43. Ça a l'air que c'est un bon avion, en plus, le C-Series.
Oui,
ça, le pire.
Mm-hmm.
Hein?
Absolument.
C'est, notamment sur l'environnement, Pierre-Yves vient de le dire. C'est vrai, c'est rendu un enjeu. Le transport aérien, c'est hyper polluant, là. Fait que si t'es capable d'avoir des trucs, mais on l'a échappé à quelque part.